Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler du projet d'habitat participatif au Bramadou, à Barre des Cévennes. Donc, c'est un projet qui est porté par le Parc National, qui se fait accompagner par APFAB, une société coopérative d'intérêt collectif spécialisée dans la conduite de projets d'habitat participatif. Et ce matin, pour en parler, je suis avec Tatiana Carmier, bonjour, qui est chargée de mission à APFAB, et Éric Dessolier, qui est en charge des questions d'urbanisme et de paysage au Parc National. Bonjour Éric.
Bonjour.
Eh bien, tout d'abord, Tatiana, qu'est-ce que l'habitat participatif ?
Donc, l'habitat participatif, c'est une démarche qui existe depuis maintenant facilement une petite quarantaine d'années, qui est née donc dans les années 60, fin des années 70 et années 80. Au début, ça s'appelait l'habitat groupé, autogéré. Et c'était une démarche qui permettait à des personnes physiques, donc des personnes comme vous et moi, de se réunir pour imaginer des projets d'habitat collectif. Et par ce biais-là, en fait, de retrouver des moyens de participer à la conception des logements dans une période où il y avait beaucoup de logements créés par les HLM et des logements collectifs qui, dans lesquels les habitants étaient invités juste au moment où il fallait rentrer dans les murs. Donc voilà, cette démarche-là a évolué. Il y a eu plusieurs projets qui ont été créés dans les années 80. Puis après, ça s'est un peu étiolé dans les années 90. Et depuis 2005, c'est reparti. Donc le logement, le mot habitat participatif, c'est sorti de discussions qui ont eu lieu entre les différents acteurs pour trouver une dimension, quoi, une appellation qui leur plaisait. Et la notion de participation des habitantes étant importante. Et voilà, c'est ce nom-là qui a été choisi. Donc le principe, c'est des logements individuels et des espaces partagés, parce que la dimension d'espaces partagés, ça crée justement des synergies, des moyens de s'entraider et de gérer ensemble un logement, donc des relations différentes entre voisins, au sein d'un ensemble de logements, d'un ensemble collectif en fait.
Donc rien à voir avec une communauté.
Alors, rien à voir, mais il y a la dimension quand même de solidarité qui reste présente, d'habiter ensemble aussi. Par contre, la grosse différence pour moi, c'est qu'il y a des logements individuels et donc il y a vraiment des cellules intimes au milieu d'un ensemble où il y a une volonté de partager des choses. Mais en fait, l'important, c'est d'offrir aux habitants le choix entre ces deux dimensions, intime et collectif. Et
je pense que Natacha faisait référence aux communautés des années 60-70 qui peuvent faire peur à certains ou à certaines.
Oui, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. Donc pour moi, c'est différent d'une communauté, mais avec quand même cette dimension de retrouver de l'entraide, de la solidarité et de fonctionner différemment entre voisins, en fait. Alors justement, quand on parle de voisins, pour moi, dans une communauté, c'est peut-être pas cette dimension-là, mais c'est pas trop ma génération, donc j'ai pas d'exemple de vie en communauté.
Très bien. Est-ce que, Éric, vous pourriez nous présenter le Bramadou, donc à Barre des Cévennes ?
Le Bramadou, c'est une petite ferme, enfin une ancienne ferme, qui est située à 2 km à vol d'oiseau, à l'est du bourg de Barre des Cévennes, derrière la petite montagne calcaire du Castellas, donc qui est très bien située. On a une vue assez extraordinaire depuis cette petite ferme qui est sur un promontoire. On est à 900 mètres d'altitude, hein, me semble-t-il. Donc c'est un endroit assez particulier, assez unique. Et c'est un bâtiment qui a été légué au parc au début des années 2000. Et on a un espèce de d'engagement moral en fait sur cette propriété, parce que il s'agit pas de vendre ce legs à un résident secondaire, par exemple. Il s'agit d'en faire quelque chose où il y a un but social, enfin en tout cas qui serve le territoire, qui soit quelque chose qui soit intéressant pour la commune, pour nous, pour les habitants, voilà, pour les Cévennes. Donc voilà, c'est une petite ferme qui est dans son jus, qui doit bien sûr être rénovée.
Très bien. Et comment est née l'idée de réaliser un habitat participatif justement au Bramadou ?
Alors, c'est par rapport à ce que je disais, c'est clairement né de la volonté de respecter ce legs, cet engagement moral, et d'avoir aussi un projet innovant, parce qu'en fait, l'habitat participatif, comme le disait Tatiana, c'est quand même des démarches assez nouvelles qui se mettent en place dans certains territoires au vu de la difficulté d'accès au logement, au vu de la capacité d'investissement des uns et des autres. Donc nous, on a eu envie au parc de prendre ce risque, on va dire, de mener ce projet et de transformer une propriété du parc, non pas en résidence secondaire, mais en endroit qui accueille plusieurs familles.
Et donc un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, a été lancé pour que les personnes intéressées puissent se faire connaître. Alors quelles sont les conditions pour candidater ?
Alors peut-être Tatiana, elle va évoquer ça.
Oui. Je vais vous expliquer. L'appel à manifestation d'intérêt n'est pas encore lancé. Il est sur le point d'être lancé, puisque au préalable, il y a une étude de faisabilité qui a été faite sur la ferme du Bramadou pour voir comment est-ce qu'un projet d'habitat participatif pourrait s'insérer dans ces murs existants. Donc, ce qui en ressort déjà, c'est que cette ferme, elle peut complètement être favorable à l'habitat, puisque il y a possibilité de créer des logements justement qui permettent des espaces intimes et des espaces partagés. Et du coup, suite à cette faisabilité, on est parti sur l'idée de lancer donc une communication grand public. C'est ce qu'on appelle l'appel à manifestation d'intérêt. C'est cette démarche où on va communiquer sur le projet pour bien expliquer en quoi il consiste, pour que derrière les gens qui viendront assister aux ateliers qu'on va proposer en sachent plus sur le projet. Donc ça va durer quelques mois et à l'issue de ces différentes rencontres et ateliers thématiques, les personnes pourront voir si elles veulent aller plus loin et si elles souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire se positionner pour être éventuellement habitants du projet, elles seront invitées à rendre en fait un dossier de candidature. Donc c'est toute cette phase-là qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt et qui se solde par une candidature concrète au terme de laquelle, de manière à ce que le parc puisse voir un peu les projets qui sont portés par les personnes intéressées et s'il y a éventuellement plusieurs candidatures, pouvoir se positionner sur tel ou tel projet.
Ce que je voulais ajouter, c'est que nous, en fait, en parallèle, ça fait plus d'un an, un an et demi, deux ans qu'on travaille sur le Bramadou au parc. Ça fait... Pendant tout ce temps-là, on a visité le bâtiment, on a réfléchi à des extensions possibles, à sa rénovation éventuelle. On a réfléchi sur les coûts, on a estimé un petit peu. On a amené, moi je me souviens que j'ai amené avec la directrice du parc, on a amené le sous-préfet de l'époque sur place pour qu'il visite les lieux et qu'il puisse éventuellement nous dégager des financements pour amener l'eau potable, etc. Enfin, nous en fait, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est un peu ce qui vient à la surface aujourd'hui de manière publique. Mais nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet.
Et pour les conditions, donc j'imagine que pour postuler, il faut être résident permanent et qu'il y ait déjà un groupe de personnes qui se constituent pour résider tous ensemble dans ce bâtiment avec un projet. C'est bien ça ?
Peut-être je peux compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, sur les questions, donc, et ce que disait Eric d'ailleurs, la faisabilité, elle répondait un peu à un cahier des charges que nous a transmis le Parc National, c'est-à-dire quelles sont les intentions du Parc National et aussi de la commune, puisque la commune de Bar-des-Cévennes est impliquée. Et du coup, à partir de ce cahier des charges, nous, on a créer ce document pour voir dans quelle mesure on pouvait répondre au cahier des charges. Donc effectivement, ce cahier des charges, l'un des points essentiels pour la commune et le parc, c'est que ce projet permette de renforcer la dynamique locale, en fait. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on demande à ce que ça soit de l'habitat permanent et pas des résidences secondaires, pour que les gens qui seront impliqués dans le projet soient vraiment là en permanence et que leurs actions bénéficient à la dynamique du territoire. En complément de ça, il y a aussi d'autres idées qui ont été posées sur la table par le parc et par ses partenaires. Il y a les enjeux de toujours liés à la dynamique, d'avoir des familles. Donc, ce n'est pas forcément un projet qui soit réservé uniquement à des familles, mais qu'en tout cas, à minima, il y aurait cette mixité-là avec des familles avec enfants qui soient présents. Et l'idée d'un projet écologique et architecturalement exemplaire, en fait.
Ouais, alors ça, je peux peut-être en toucher deux mots. Effectivement, il ne s'agit pas de se lancer dans un tel projet innovant d'un point de vue social sans avoir également une sorte d'innovation et de recherche aussi, de recherche-action presque, hein, sur une réhabilitation exemplaire avec des matériaux naturels, etc. Nous, on fait pas ça pour au final avoir une extension en parpaing avec du ciment. Enfin, c'est pas du tout notre objectif. C'est justement d'avoir un projet total. Et en fait, si on peut réaliser ce projet d'habitat partagé avec plusieurs familles, mais en même temps avoir un curseur assez haut en termes de rénovation de rénovation architecturale et écologique un peu exemplaire, eh ben on aura gagné ce pari-là, quoi. Et nous, en fait, l'objectif, c'est que ça soit une référence pour nous. C'est-à-dire, on n'est pas en cœur de parc, hein, sur le Bramado, on est juste à la limite, mais qu'importe, à la limite, j'ai envie de dire. Si on peut utiliser la rénovation, le projet qui va être réalisé sur d'autres lieux, sur d'autres sites, bah pour nous, c'est tout bénéfice aussi. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que ça devienne une référence.
Et pour rebondir, peut-être, de quelle façon les habitants seront associés au projet de conception de réhabilitation ?
En fait, dans le cadre de l'habitat participatif, un des points essentiels, c'est que donc, les futurs habitants participent à la conception de leur logement. Donc pour ça, il y a plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle l'autopromotion. Donc là, c'est vraiment des groupes qui sont maîtres d'ouvrage, qui sélectionnent leur architecte et travaillent avec lui sur la conception, comme si c'était un foyer, en fait, ils travaillent avec un architecte, sauf que là, c'est un groupe. Et puis après, il y a des projets qui sont menés différemment. Donc, par exemple, des fois, il y a des bailleurs sociaux qui peuvent mener des projets d'habitat participatif aujourd'hui. Dans ce cadre-là, il y a un mandataire, un maître d'ouvrage qui est différent du groupe, mais il y a un accord, il y a souvent une forme de convention qui lie le groupe et le maître d'ouvrage qui va vraiment être client de l'architecte, de manière à définir un mode de fonctionnement. Donc c'est réfléchi en amont pour voir les rendez-vous qui sont prévus, qui intégreront les futurs habitants. Généralement, il y a des rendez-vous collectifs sur le début pour valider une forme générale. Et après, il y a des rendez-vous individuels avec chaque foyer pour travailler plus sur l'aménagement intérieur des logements. Donc voilà, suivant le cadre qui est défini, il y a des fonctionnements différents, mais ce qui est sûr, c'est que la participation des habitants est un prérequis. Il n'y a pas d'habitat participatif sans cette dimension-là, en fait.
Alors là, on voit bien, on est face à un vocabulaire un peu spécial, maître d'ouvrage, architecte, client, c'est des mots qui peuvent faire peur. Mais en fait, nous, c'est notre quotidien. Quand on fait une commande publique et quand on réalise une opération, on est maître d'ouvrage, on a un maître d'œuvre et on fait appel à des entreprises. Et là, en fait, on va mettre les habitants dans ce tempo-là, dans cette méthode et dans cette démarche-là, qui est une démarche de haute qualité. Et on va bien évidemment faire appel à des compétences d'architecture, mais également des compétences d'éco-conception sur la partie bâtie, matériaux, etc., pour que les habitants ils soient vraiment entourés de ces professionnels-là et bien sûr qu'ils participent. Et il va falloir choisir, en fait, l'architecte sur cette compétence aussi de pouvoir partager un travail et de pouvoir... écouter les autres et travailler avec des habitants. Et ça, c'est un choix stratégique, c'est un choix intéressant, c'est complexe, parce que les architectes, ils n'ont pas forcément cette habitude de s'ouvrir et d'écouter et puis de proposer, enfin d'avancer de manière un peu itérative comme ça. Donc tout ça, ça participe de du projet et de l'innovation.
Potentiellement, pardon.
En fait, là, c'est vraiment pour. J'ai accompagné d'autres projets d'habitat participatif, justement, plus autonomes. Et là, il y a vraiment une chance, en fait, d'être déjà avec le parc national qui est très favorable et très soutien de la démarche. Donc, il y a vraiment une chance pour des futurs habitants de rentrer dans un projet où le parcours va être simplifié. Et dans la question de la démarche itérative, elle est importante dans l'habitat participatif. Effectivement, annoncer comme ça peut sembler une montagne, en fait, rapidement, parce qu'il y a plein de sujets à traiter. Mais l'important, c'est, et les ateliers vont commencer, les ateliers proposés dans le cadre de l'ANI ont contribué à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de connaissance progressive du projet, et chaque fois, petit à petit, on revient sur des questions qui font que rapidement, les gens vont monter en compétences, et que quelque chose qui semblait complètement inconnu et peut-être inquiétant dans un premier temps, au bout de quelques mois, en fait, ça, les gens vont se familiariser avec ces questions-là. Donc, il y a vraiment cet accompagnement qui est importante, d'une part. La montée en compétence, elle est importante. Elle fait partie aussi intrinsèque du projet d'habitat participatif, que ce soit la compétence en architecture, mais aussi sur le fonctionnement collectif, par exemple, des choses qui sont importantes et dont on n'a pas forcément l'habitude dans notre société. Donc, petit à petit, ces choses-là, elles se mettent en place. Et c'est ça qui contribue aussi à resserrer, à créer un groupe complémentaire et efficace. Et voilà, qui ça motive aussi, c'est une démotivation souvent des groupes, cette évolution, en fait.
Potentiellement, combien pourrait-il y avoir de logements donc, au Bramadou ?
L'étude de faisabilité, nous, on était partis sur 3 logements au début. Parce qu'en fait, c'est un ensemble bâti qui n'est pas très grand, mais on peut quand même dégager 3 logements. C'est ce qu'on a regardé de manière un peu plus précise. Après, on sera tout à fait favorable à ce qu'un groupe propose une extension de ce bâtiment, s'il y a un respect des formes et des matériaux, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc, on peut accueillir peut-être 4, enfin, on peut peut-être réaliser 4 logements. Ça peut être aussi 3 logements, on va dire, familiaux, puis un logement plus pour une personne, enfin, pour une seule personne. Voilà, on est tout à fait ouvert aux formes, mais en tout cas, on est entre 3 et 5 logements maximum. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tatiana.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, ce qui est intéressant quand on lance comme ça une démarche, dans la mesure justement où l'idée c'est de pouvoir adapter l'habitat aux futurs habitants, c'est de laisser quand même de la souplesse. Donc effectivement, à minima, on peut faire 3 logements qui respectent un objectif de qualité, qui fait qu'on, dans l'étude de faisabilité, on a regardé comment ces logements pouvaient de toute manière avoir un espace extérieur intimisé. Donc soit une terrasse, soit un espace en tout cas où on puisse être chez soi à l'extérieur sans forcément être dans le collectif. Donc le minimum, c'est 3 logements sur l'existant. Et effectivement, moi, je suis allée jusqu'à 5, je proposais jusqu'à 5 logements. Si jamais on est sur des surfaces plus petites aussi, pour l'instant, les 3 logements, c'est vraiment des logements familiaux assez grands. Dans ces projets, souvent, il y a souvent des personnes plutôt âgées qui arrivent proches de la retraite, en tout cas, qui se posent des questions sur les solutions pour vieillir dans des bonnes conditions chez eux. Et du coup, là, l'habitat participatif, souvent... représente une solution possible. Donc, les personnes proches de la retraite sont souvent intéressées. Et dans ce cadre-là, on est souvent sur des tailles de logements plus petits. Donc, du coup, cette souplesse entre 3 et 5 logements, ça permettra vraiment à ouvrir l'appel à manifestation d'intérêt à une disposition de groupe la plus large possible. Et puis après, on verra justement qu'est-ce que proposent ces groupes et s'il y a eu besoin. Mais ça va s'adapter derrière aux candidatures qui seront proposées.
Voilà, et au contexte également, puisque je ne l'ai pas évoqué, mais autour du bâtiment, on a un peu de terrain. Et il y a quelques bancelles sous une source tout ça est à réhabiliter, mais il y a un secteur un peu plus humide, un peu intéressant pour avoir son propre jardin. Enfin, il y a des espaces aussi privatifs ou collectifs, hein, tout ça, ça reste à déterminer, mais qui sont intéressants aussi sur l'extérieur. Et puis on peut tout à fait... étudier une candidature d'un groupe avec un artisan qui a besoin d'un espace de travail à l'intérieur. Et donc tout ça va conditionner en fait l'affectation et l'usage des différents bâtiments.
Et en général, dans l'habitat participatif, donc il y a des pièces qui sont communes. En général, quelles sont ces pièces communes ? Quelques exemples peut-être concrètement ?
Alors le plus souvent, il y a une salle commune qui est prévue. La salle commune, souvent, c'est le lieu d'accueil déjà de tout ce qui est fonctionnement collectif, donc les réunions, mais aussi des fêtes, des repas. Donc ça, c'est un peu souvent le cœur social du projet. Il y a souvent aussi la volonté de mutualiser des outils techniques. Donc ça peut être une buanderie collective et qui peut être complètement libre, c'est-à-dire qu'il y a certains projets où il y a une buanderie collective, mais tout le monde ne l'utilise pas parce qu'il y a certains foyers qui ont décidé d'avoir leur machine à laver chez eux parce que c'était plus pratique. et qui du coup prévoient quand même un espace chez eux. Donc c'est vraiment libre, voilà, dans le groupe, il y a une liberté de fonctionnement. Ça peut aussi être des ateliers. C'est-à-dire tous les outils, les outils qui ne sont pas forcément utilisés en continu peuvent être pensés, mutualisés et donc accueillis dans un même lieu pour que ça puisse bénéficier à tous les gens du groupe. Il y a aussi souvent la volonté d'avoir la possibilité d'accueillir, pareil, de mutualiser les chambres d'amis. Donc, plutôt d'avoir des chambres d'amis dans les logements, il y a une mise en commun qui est pensée, qui peut aller jusqu'à des petits studios, enfin, voilà, suivant les besoins. Il y a des personnes qui veulent pouvoir accueillir des familles ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu la base. Et puis après, et la base essentielle, parce que toutes ces choses qui sont construites, ça demande des fonds, en fait. Donc, des fois, il y a des arbitrages qui doivent être faits entre la volonté d'avoir beaucoup d'espaces partagés et puis la capacité de financement derrière. Mais à minima, c'est des espaces partagés extérieurs, en fait. Donc, potager collectif, des jardins, des espaces. Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, les espaces extérieurs peuvent être plus grands que sur un espace individuel, par exemple, un logement individuel. Et du coup, il y a possibilité de créer différentes ambiances. Donc, des espaces plus dynamiques pour les enfants, des lieux plus tranquilles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, j'ai, par exemple, à côté de chez moi, il y a un projet en rural qui s'appelle le Hameau des Clos et qui prévoit même, dans la salle commune, dans le collectif, il y a des gens qui font de l'escalade. Ils ont un mur d'escalade et ils font régulièrement des petits apéros escalade puisqu'ils ont aussi, dans la salle commune, une cantine partagée. Et donc, ils s'en sont en buvette ces jours-là pour pouvoir accueillir des gens de l'extérieur. Donc, voilà, ça peut donner c'est un exemple.
Très bien.
Et ça dépend vraiment de la composition du groupe et ce que les gens ont envie d'y apporter, en fait.
Très bien. Et donc, les habitants devront créer une coopérative pour gérer cet habitat participatif. Très concrètement, comment va se passer la gestion ?
Alors, juste avant que Tatiana précise un petit peu le statut de la coopérative, c'est juste pour dire que pendant l'étude de faisabilité, on a étudié les différentes solutions possibles pour que ce projet puisse voir le jour d'un point de vue, statut des habitants, bail, location, propriété, etc. Voilà. Donc il a fallu un peu creuser les différentes solutions, et c'est là que Tatiana nous a beaucoup aidé avec son expérience et puis avec sa connaissance des différentes solutions possibles. Et donc au final, nous, ce qu'on a souhaité, c'est que le parc reste propriétaire. Donc ça, c'est important à dire. Le parc restera propriétaire, même s'il va signer un bail de longue durée qui va le mettre vraiment de manière un petit peu plus, enfin on va pas être un propriétaire au quotidien comme ça, aller voir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Mais en tout cas, on a décidé de rester propriétaire pour qu'on soit un petit peu garant sur le très long terme, qu'on soit garant de la propriété publique de ce bâtiment et de son usage. Et là, je reviens au legs, hein, qu'on a et l'engagement moral qu'on a sur ce bâtiment. En tout cas, c'est une solution qui nous a paru intéressante sur le très long terme. Voilà. Après, je laisse Tatiana parler de la coopérative d'habitants.
Donc, la coopérative, c'est un statut juridique assez récent qui a été créé par la loi Allure, donc il y a moins de 10 ans, et qui est créé vraiment à destination des projets d'habitat participatif. La spécificité de ce montage, donc c'est une société, donc la société assure la dimension collective, c'est-à-dire que les habitants rentrent comme sociétaires et ont des parts sociales au sein de la société. Et c'est une société particulière puisque elle assure la construction ou la réhabilitation des biens normalement, et après elle donne un droit de jouissance aux habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle. Les gens qui sont dans le groupe participent à la gestion et à des lieux et de la société, mais ils ont un droit de jouissance sur le logement. Et pour nous, ça nous semblait important par rapport au fait que le parc reste propriétaire, de trouver une structuration qui assure la dimension collective du projet. Éviter de se retrouver avec des logements qui deviennent location de personnes qui louent au parc, et qui ne sont pas forcément dans cette dimension de dynamique collective, en fait, au sein de cet ensemble. Donc la coopérative, elle permet ça, puisqu'elle permet, c'est un montage qui est là pour faire la gestion des lieux. Et elle répond aussi à deux points importants pour le parc, c'est que ça soit de la résidence principale, c'est-à-dire au sein d'une coopérative d'habitants, les logements sont forcément des résidences principales. Et dans la coopérative qui a été, c'est vraiment un montage un peu militant en termes sociaux, puisqu'il y a aussi la dimension qu'une personne égale une voix. Donc, comparé à d'autres montages en société où souvent les droits de vote sont corrélés à la propriété au nom de parts sociales. C'est-à-dire les personnes qui amènent plus de fonds ont plus de droits que d'autres qui en amènent moins. C'est le cas dans la SCI, la SCIA par exemple. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là. Chaque habitant aura le même voix au chapitre sur les décisions qui seront prises sur le fonctionnement collectif. Et il y a une dimension aussi dans la coopérative qui me semblait importante, même si là, c'est le fait que le parc qui reste propriétaire qui interdit toute possibilité de spéculation sur le projet. Et dans les coopératives habitants habituelles, normales, il y a aussi cette dimension-là anti-spéculative. C'est-à-dire que les gens qui ont investi dans une coopérative d'habitants pour leur logement ne peuvent pas revendre leur logement au prix qu'ils le souhaitent derrière. C'est encadré dans les statuts de la coopérative. C'est les grandes lignes. Après, il y aura d'autres choses à dire. Il y aura un atelier, justement, pendant l'appel à manifestation d'intérêt sur le montage juridique qui précisera plus de détails sur les choses. Mais il faut retenir en fait que c'est un montage en société, donc qui assure la dimension collective et anti-spéculatif, et pour le fait que les logements soient des logements résidences principales pour renforcer la dynamique du projet.
Voilà, et nous en fait, Parc, on va signer un bail emphytéotique. C'est un mot, c'est un joli mot compliqué pour dire un bail de longue durée, hein, qui va être de 99 ans. Donc voilà, on s'oriente vers ça. On va signer un bail avec la coopérative. Donc notre interlocuteur, ça sera la coopérative. Ça ne sera pas chacun des habitants individuellement. Voilà.
Et après, donc la coopérative sera l'acteur qui gérera les interfaces entre les habitants. Donc c'est les habitants eux-mêmes qui seront responsables de la gestion de cette coopérative, qui définiront les sujets à traiter au fur et à mesure pour que la relation avec le parc puisse bien se passer. Donc ça peut être déjà la récupération des redevances, on appelle ça redevance au sein d'une coopérative, c'est un équivalent de loyer en fait, pour pouvoir régler au parc le loyer qui sera prévu dans le cadre du bail emphytéotique, et puis organiser toute la gestion des lieux. Donc ça va jusqu'à, par exemple, les coopératives, dans les redevances qui sont données par les habitants, il y a une part justement qui est destinée à provisionner des fonds pour des gros travaux ou des aménagements. Et donc là, au sein de la coopérative, les habitants pourront définir ces montants-là et derrière s'assurer qu'ils soient acquittés. Enfin, voilà, il y a vraiment une large part qui sera pris dans cette démontage de cette société sur définir les conditions d'usage et pour que chacun puisse donner son avis, pour que derrière la gestion commune se passe au mieux, en fait. Et du coup, oui, cette dimension, donc la coopérative gère le collectif, et au niveau du bâti en lui-même, c'est plus une gestion qui se voit avec le parc national.
Est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui est innovant, on peut dire, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples dans cette situation?
Le cas d'un bail emphytéotique donc accordé par on va dire un maître d'ouvrage à une coopérative, ce serait la première fois que ça s'est fait en France. Parce que souvent, en fait, aujourd'hui, les coopératives, c'est plutôt soit des groupes d'habitants qui cherchent un montage le plus social possible et qui permettent justement d'assurer, de limiter les dérives possibles du projet. Si jamais les gens veulent que ce soit des résidences principales, par exemple, c'est un des seuls montages qui permet de ça, en fait, en France. Donc, les groupes, souvent, financent même leurs projets. Donc là, c'est très particulier que la rénovation du lieu soit financée par Parc National et après mise en location en bail emphytéotique. Ça, c'est vraiment complètement innovant.
D'accord. Et donc, justement, pour parler de ce projet, plusieurs ateliers sont prévus dans les prochains mois, donc trois ateliers. Est-ce que vous pourriez, Tatiana, nous en dire un peu plus sur le contenu de ces ateliers?
Oui, bien sûr. Donc, on a prévu plusieurs ateliers. Souvent, on fait ça dans le cadre d'émergence de projets à partir d'un lieu. Donc, c'est plutôt au lieu d'être un groupe qui se réunit et qui cherche un lieu, là, c'est plutôt un lieu qui existe. Et on donne de l'information pour voir s'il y a des gens intéressés qui peuvent constituer un groupe. Dans ce cadre-là, souvent, on fait au moins 3 ou 4 ateliers. Et donc, souvent, ça a lieu tous les mois, de manière de laisser le temps aux gens de mûrir leur envie du projet ou pas. Ça commence souvent de façon très plutôt ludique sur quelque chose d'assez généraliste sur comment ça marche, c'est quoi l'habitat participatif, comment ça s'organise, voilà, un peu l'histoire de phasage. Donc ça, c'est plutôt une information générale sur les projets d'habitat participatif. Ça, c'est le premier atelier. Généralement, c'est sur une demi-journée. Et là, on proposera même de commencer plus tôt. Donc, ce sera l'après-midi, l'atelier. Et le matin, je proposerai quelque chose de généraliste sur le cadre du projet. Donc, habitat participatif, c'est quoi dans les grandes lignes? Et surtout, aller visiter la ferme du Bramadou pour que les gens voient tout de suite qu'est-ce qui est proposé en termes de lieu, puisque c'est vraiment l'engagement des gens dans un projet d'habitat participatif. Il se fait par le collectif et par le lieu. Il faut adhérer aux deux pour vraiment avoir envie de s'engager. Et après, on rentre dans une question plus technique. Donc, l'atelier suivant, ça sera sur les montages juridiques et financiers. Et là, donc, a priori, on sera accompagné d'une juriste qui est spécialisée sur les coopératives d'habitants pour venir vraiment répondre aux questions de façon très détaillée aux personnes qui sont présentes. Et l'atelier suivant, le dernier atelier thématique, ça sera sur la programmation architecturale et la conception participative. Donc là, on parlera plus d'architecture et des espaces, qu'est-ce qui peut être imaginé dans ces lieux, etc. On travaillera à partir de plans, éventuellement de maquettes. Et le dernier atelier, donc ça c'est vraiment plutôt un atelier de conclusion qui est destiné à toutes les personnes qui ont suivi, soit de façon continue, soit ponctuellement, les ateliers précédents, mais qui veulent aller plus loin. Là, ça sera plus grand public. On proposera vraiment aux gens qui ont envie de participer à la manifestation d'intérêt de venir sur ce dernier atelier. On les accompagnera. Si on a des questions par rapport à la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt, de pouvoir travailler ensemble sur cette réunion. À terme, l'idée, c'est que les gens qui participent à ce groupe puissent candidater à l'appel à manifestation d'intérêt.
Nous, en fait, je pense que c'est important de dire que le parc là-dedans, il a juste travaillé sur une intention d'accueillir des habitants permanents dans un lieu proche d'un centre-bourg, d'avoir une rénovation un peu exemplaire qui puisse faire référence et qu'il n'y ait pas de spéculation immobilière à la suite de ce projet. Nous, on a fixé un cadre qui nous permet de nous garantir ça. Une fois ce cadre fixé, ces ateliers et l'appel à manifestation d'intérêt, ils sont là pour que les gens puissent exprimer des besoins, des envies et construire un projet mais qui leur appartient, hein. Qui leur appartient. On n'est pas là pour contraindre au-delà de ce cadre. Voilà, c'est ça qui est important à dire.
C'était le mot de la fin, Eric.
C'était
pas le mot de la fin.
L'une des conditions de l'appel à la manifestation d'intérêt, c'est qu'on va recevoir les candidatures, mais de groupes. Alors, pas forcément des groupes au complet, mais à minima qui est deux foyers ou un peu plus. Les ateliers, ils sont aussi prévus pour que les gens qui ne sont pas forcément en groupe aujourd'hui, mais qui sont intéressés par le projet, puissent venir et rencontrer d'autres personnes intéressées aussi par le projet, pour éventuellement, au terme de ces quelques mois que va durer l'appel à la manifestation d'intérêt, ils puissent se constituer en groupe, parce qu'ils auront eu 4-5 mois pour mieux se rencontrer. Donc, j'inviterai aussi les gens intéressés qui sont dans ce cas-là à échanger leurs contacts, pour que sur la durée, les temps d'atelier ne soient pas les seuls moments où ils peuvent échanger, en fait. Il y aura vraiment cette démarche de commencer à proposer aux participants intéressés de commencer à être acteurs déjà dans ces rencontres, ce qu'ils pourront organiser en dehors des ateliers pour favoriser les rencontres si besoin.
Très bien. Je vous propose de terminer maintenant cette émission. Nous communiquerons bien entendu sur les dates pour les ateliers, pour les personnes qui seraient intéressées donc pour ce projet d'habitat participatif au Bramadou. En attendant, je rappelle que le parc fête son 50e anniversaire et que l'événement phare aura lieu les 25 et 26 septembre à Florac. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet et à vous inscrire aux différents événements donc sur le www.cevennes-parcnational.fr. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.